Alors, on va parler du cerveau et de la simulation du cerveau aujourd'hui, notamment autour du Human Brain Project. Alors, je vais laisser la parole à... Oui, oui. Bah alors, présentons-nous. Très bien. Alors, Lucie, tu travailles sur le Human Brain Project. Catherine Dufour, auteur. Éric Dumonteil, tu es spécialiste en calcul, notamment dans le domaine du calcul aléatoire. Et Jean-Gabriel Ganassia, spécialiste en intelligence artificielle. C'est bien cela ? Très bien. Alors, la question de la simulation du cerveau et finalement de ce que ça peut donner en termes de révélation quant à ce qu'est l'intelligence et ce qu'on peut en comprendre, nous, à ce niveau-là, est un enjeu qui est très présent dans la science depuis les années 60, même plus tôt que ça peut-être. Enfin, depuis très longtemps, mais on a été capable d'utiliser les technologies numériques pour simuler justement. Surtout depuis les années 90.
Ah, oui.
D'accord, très bien.
C'est très récent.
Bon, eh ben, si tu peux nous parler du Human Brain Project, s'il te plaît, pour commencer.
Bonjour. Je suis à la fois impressionnée, un peu... Voilà, j'ai pas l'habitude de parler dans ce genre d'audience. Si je dis des gros mots, vous faites ouh, ouh comme ça. Je viens là parce que le CEA, donc Roland, hein, c'est de sa faute, a demandé à ce qu'on vienne vous parler du Human Brain Project, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est un très gros projet européen. Très gros, quand on dit très gros, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Qui a été financé par la Commission européenne il y a un an et demi, deux ans, et qui regroupe beaucoup de monde, et dont l'objectif est effectivement de simuler le cerveau. Voilà, donc vous avez cette image, un cerveau en silicone semblable au nôtre. Un objectif ambitieux, prétentieux, illusoire, sans doute. Alors, en pratique, pour vous présenter rapidement, il y a quelques diapos simples. Disons que l'objectif, c'est, en théorie, de simuler un cerveau de l'échelle de la protéine jusqu'à l'organe. Ce que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'observation multi-échelle. La protéine, c'est-à-dire vraiment le constituant le plus élémentaire, la molécule, si vous préférez, la plus élémentaire de la constitution de notre cerveau, en sachant quand même qu'on simplifie la vie, puisque vous le savez, 95% de notre cerveau est fait d'eau. H2O. Voilà. Alors, 5% du reste, mais c'est le reste aussi qui nous intéresse, néanmoins. 95% d'eau, protéines, molécules extraordinairement importantes pour le fonctionnement cérébral. Donc de la protéine jusqu'à l'organe, vous voyez, il y a protéines, chromosomes, synapses, cellules, microcircuits, aire cérébrale, cerveau, corps. Ça, le but, c'est de simuler l'influence de toutes ces échelles-là. Donc vous imaginez l'ambition incroyable. Donc dans l'échelle spatiale, ça va donc du micron jusqu'à 2 mètres. À peu près. Et encore, quand on voit le corps, on entend le corps avec, évidemment, son interaction avec l'environnement, c'est-à-dire beaucoup plus que 2 mètres. Pour ce qui est des échelles de temps, on est également dans des échelles qui sont très vastes, hein, puisque ça va de la dynamique moléculaire jusqu'au développement vieillissement, en passant par activité synaptique, potentiel d'action, métabolisme, plasticité synaptique, tout ça, c'est des gros mots. En gros, ce que ça veut dire, c'est ça va depuis... les mouvements des molécules qui composent nos neurones et toutes les cellules qui vont avec, les mouvements des molécules qui composent la transmission entre nos neurones, et cette transmission, comme vous vous en souvenez sans doute, se fait au niveau des contacts qui s'appellent les synapses, d'où l'activité synaptique. Le cerveau, c'est facile, c'est de la chimie, de l'eau et de l'électricité. Donc avec ça, c'est vachement simple. Donc il y a le potentiel d'action. Là, on est dans la micro-milliseconde, à peu près. Ensuite, le métabolisme, parce que quand même, ça consomme de l'énergie. Et vous savez que le cerveau consomme énormément de sucre, hein, et notamment, surtout quand on ne fait rien. Beaucoup plus quand on ne fait rien qu'additionnellement quand on fait quelque chose. la consommation supplémentaire n'est pas très importante. Ensuite, tout ce qui nous intéresse évidemment, c'est combien notre cerveau se modèle au fur et à mesure du temps, ce qu'on appelle la plasticité, avec bien sûr chez l'enfant tout ce qui est les apprentissages, mais heureusement chez l'adulte aussi, et le fait que chaque événement de nos vies modèle quelque part nos circuits, mais dans du dur. Ça fait une grosse différence par rapport à la simulation des ordinateurs. Et tout événement de nos vies change quelque chose dans notre câblage, change quelque chose dans nos synapses, tout, à tout instant. Donc tout ça, ça fait le lit de nos apprentissages, de notre comportement, de nos changements de comportement, tout au long du développement et du vieillissement. En termes d'échelle de temps, vous voyez qu'on est passé de la microseconde à, compte tenu de nos espérances de vie moyennes pour les plus jeunes d'entre nous, une centaine d'années. Donc vous voyez l'ambition du projet. Alors, c'était parti de l'idée de Henri Markram, qui est à Lausanne, qui était de dire « il est impossible d'observer le cerveau complètement, donc il faut le simuler ». En dessous, vous avez une grille avec des hexagones, avec des images bleues et claires. Dans chaque hexagone, vous avez 1 million de neurones artificiels. Et ceux qui sont en clair sont simulés comme des neurones activés, et ceux qui sont en bleu sont des neurones pas activés, et puis on les fait parler entre eux, et puis voilà, et on fait donc des micro-circuits neuronaux. Les micro-circuits neuronaux, c'est très important parce que ça fait la base de notre comportement, de nos fonctions cognitives, etc. Mais bon, vous voyez que là, je vous ai dit 1 million, je ne sais pas combien il y a de cellules, mais enfin bon, de toute façon, ça fait qu'un tout petit bout de notre cerveau. Si on arrive à simuler ça à cette échelle-là, c'est déjà pas mal. On peut déjà à peine l'observer dans le vivant, mais on ne peut certainement pas simuler tout ça facilement. Donc vous voyez, c'est un énorme projet et l'objectif est double, comprendre le cerveau humain et le simuler, et à l'inverse, apprendre du fonctionnement du cerveau humain pour générer des nouvelles générations, et là je ne suis pas du tout dans mon domaine, donc j'en dirai rien, il y a des spécialistes à ma gauche, générer des nouvelles générations de calculateurs formidables, ils vont vous dire tout ça. Voilà. Alors le problème, et là je reviens dans mon domaine, c'est que évidemment, il est absolument nécessaire d'observer d'abord très bien et de comprendre, hein, au moins le mieux qu'on peut, le cerveau humain tel qu'il est. Et c'est là où l'avènement de l'imagerie, dont vous avez entendu parler pas mal, l'imagerie fonctionnelle, toutes les méthodes d'imagerie, il y a des images à droite là, qui vous disent un certain nombre de choses, permet de comprendre l'organisation du cerveau in vivo, c'est-à-dire chez un sujet vivant, un sujet qui fait des trucs, un sujet sain, il n'y a pas de limite à étudier des sujets qui ne sont pas malades, alors qu'avant, dans les techniques qu'on avait avant, il fallait. Et donc, on peut étudier des sujets volontaires, bien entendu, et avec toutes les réglementations qui vont bien, on peut étudier des sujets diversement et de façon très approfondie pour comprendre leur fonctionnement cérébral. Et ça, c'est l'objet d'un projet qu'on mène au CEA, à Neurospin, sur le plateau de Saclay, qui s'appelle Intense Brain Charting, ça veut dire cartographie cérébrale très intense. Pourquoi très intense ? Parce que ce sont des sujets, il n'y en aura pas beaucoup, on commence le projet incessamment, qui vont venir beaucoup nous voir, beaucoup, 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 pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices dans l'IRM pour qu'on puisse cartographier leur fonction cérébrale, leur organisation cérébrale en extrême détail. Si jamais il y a des candidats parmi vous, venez me voir à la sortie, on en cherche encore. Ça s'étale sur 7 ans. Et avec ça, on veut faire une cartographie extraordinairement précise. Alors, on a quelques questions très, très globales que je vais vous résumer, mais alors très, très vite. Par exemple, est-ce que nous avons le même cerveau entre nous ? Alors, vous avez là 3 cerveaux, c'est-à-dire 3 personnes, quand même, il faut se souvenir, 3 personnes. C'est 3 personnes différentes. Hein, et en même temps, si vous regardez les couleurs des sillons qui sont avec des couleurs apparentées entre elles. Je ne vais pas vous montrer avec... Je n'ai pas de pointeur, d'ailleurs. Le sillon rouge qui est en diagonale, il est partout présent. Et le sillon bleu qui est horizontal, il est partout présent. Donc, on a beaucoup de similitudes, de la même façon qu'on a tous 2 yeux, 1 nez, 1 bouche. En même temps, si vous les regardez en détail, eh ben, ils sont tous différents, de la même façon qu'aucun de nous n'a 2 fois les mêmes yeux. Enfin, on a... Voilà, vous avez compris. Donc, avons-nous le même cerveau ? C'est extrêmement important parce que ça explique, la forme du cerveau explique aussi nos différences cognitives. Donc, ça, c'est fondamental. Je pourrais en parler 2 heures, mais on va passer à autre chose. Notre cerveau est-il symétrique ? Vous savez, le cerveau droit holistique, le cerveau gauche analytique, le cerveau gauche du langage, le cerveau droit de la musique, etc. Question rigolote, mais pas seulement rigolote, très importante pour les pathologies, les accidents vasculaires cérébraux et tout un tas de choses. Question suivante, hein, par exemple, hein, notre cerveau, on parlait de l'air de ceci, l'air de cela, l'air du langage, machin. Mais en fait, notre cerveau, c'est un vaste système de câblage. Hein, et finalement, peut-être que toutes nos fonctions cognitives se résument à la façon dont nous sommes connectés. Pas seulement connectés aux autres, pas seulement connectés à nos machines, mais connectés à l'intérieur de nous, connectés à l'intérieur de notre cerveau. Et donc, il y a une méthode que vous voyez là, à partir de l'IRM, qui s'appelle les tenseurs de diffusion, et qui permet d'analyser le câblage à l'intérieur du cerveau. Donc, on va regarder ça. Et évidemment, le câblage va être à la fois similaire et différent entre les individus. De tout ça, on va chercher à regarder. On arrive à la cartographie. Comme sur une map monde, hein, des espèces de blobs, de régions, toutes différentes sans doute, même certainement, toutes différentes entre elles, et à chacune d'entre elles va correspondre dans la boîte noire, hein, des espèces de fingerprints, des espèces d'identifiants en fonction des tâches. Et vous voyez que la région qui a été sélectionnée là, elle fait beaucoup de la tâche bleue, qui consiste à bouger la main gauche, et pas du tout de la tâche en dessous qui consiste à bouger la main droite, et elle fait un tout petit peu de la tâche violette qui consiste à manipuler des mots. Et donc chaque région a son timbre poste qui permet d'identifier exactement. La question qui va derrière, c'est d'accord, combien de régions on peut trouver comme ça dans le cerveau d'un sujet normal ? Question fascinante qui fait certainement beaucoup rêver tous les gens qui font de la science-fiction, est-ce que l'IRM sert à lire dans les pensées ? La réponse est à la fois oui et à la fois non. Suivant certaines contraintes expérimentales, qui ne sont pas nulles, la réponse est pas tout à fait non. Ça s'appelle le decoding, le décodage. Et moyennant des apprentissages du machine learning avec un sujet qui vient dans la machine et qui fait un certain nombre de tâches et la machine apprend à le reconnaître, si vous remettez le sujet après en lui disant « fais ce que tu veux », vous enregistrez et après vous pouvez retrouver évidemment ce qu'il a fait. Mais ça, c'est dans un système très contraint. On n'en est pas du tout au point où on met un sujet sans l'avoir jamais vu et dire je suis sûr que je sais ce à quoi tu as pensé. Dernier sujet, c'est est-ce que ça nous intéresse de savoir comment on a évolué depuis le grand singe jusqu'à nous ? Enfin, depuis les singes jusqu'à nous. Voilà. Et donc, il y a des aspects de comparaison entre le singe et l'homme. Voilà. Alors on utilise pour ça un truc qui s'appelle l'IRM, donc ça c'est vachement simple parce que c'est très facile à faire, parce que c'est pas irradiant, parce que ça n'a pas d'effet mauvais sur la santé qui soit reconnu jusqu'à présent. On est quand même prudent et on fait des études de sécurité pour vérifier ça. Et l'objectif est de donner toutes ces données au projet Human Brain Project pour rentrer ça dans les calculateurs et au monde des technologies de l'information, pour contraindre les simulations qu'ils vont faire derrière. Et donc, je passe la parole au suivant.
Merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant et c'est donc ça répond partiellement à la question « Peut-on mimer le cerveau par un calcul ?» Parce qu'effectivement, comme on peut le voir, on arrive, ou en tout cas, on envisage de le reproduire sur son aspect physique et matériel à des niveaux de précision sans précédent. Mais au niveau de la pensée elle-même, finalement, parce qu'on peut admettre que le cerveau est le siège de la pensée, de la conscience, telle qu'on l'entend, et ça demande à être défini, bien entendu, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que, justement, la pensée, le langage, tout ça, sont des émergences, justement, de ces connexions et de ce que nous sommes apparemment en train d'essayer de reconstruire au sein même du cerveau ? Et est-ce qu'il peut y avoir des débouchés de ce côté-là, finalement ? Peut-être sauriez-vous répondre à cette question, le lien entre l'aspect physionomique, justement, matériel de ce que nous sommes en train de recréer, ces réseaux, et est-ce que ça pourrait donner naissance, justement, à de la pensée, à de la conscience telle qu'on l'entend ?
Bon, c'est une question sur laquelle on travaille depuis un certain nombre d'années. Tout d'abord, les simulations qui prennent pour objet le cerveau sont relativement anciennes. Ça n'a pas commencé en 90. L'exploration non plus, quand même. Broca, par exemple, il explorait le cerveau d'une certaine façon. L'usage des technologies est ancien. Et les, premiers réseaux de neurones formels ont été conçus en 1943 par McCulloch et Pitt. Hein, et lorsqu'on parle de simulation neuronale, on fait quand même appel à des réseaux normaux qui ont des réseaux de neurones formels qui ont certes un peu évolué, mais quand même les fondements se retrouvent là. La question s'est posée donc depuis 1943, est-ce qu'on peut avoir, avec la complexité qui existe dans les ordinateurs qui étaient naissants, c'était même avant le premier ordinateur, hein, 1943, c'est ce qu'on appelle la cybernétique, hein, c'est-à-dire que l'ordinateur électronique va être réalisé quelques années après, en 1946. Mais on savait déjà faire du calcul sur des machines sans ordinateur. Et à ce moment-là, on s'est demandé si cette complexité, cet écheveau un peu extrêmement complexe hein, qui se retrouvait là, pouvait donner une image de la complexité de ce qu'on connaissait à l'époque de notre cerveau. Et en même temps, cette complexité, elle n'était pas seulement l'image du cerveau, elle pouvait être aussi l'image de la société. Et donc, c'est ce qui a donné naissance à cette discipline tout à fait extraordinaire qui était la cybernétique, et bon, dont on conserve bien sûr une racine hein, dans beaucoup de termes aujourd'hui, comme le cyberespace, hein, le cybermonde, etc. Et ensuite, dans les années 50, à la fin des années 50, on s'est rendu compte de la difficulté qu'il y avait à simuler notre cerveau sur ce type de machine. Et ça a conduit à la naissance de l'intelligence artificielle qui, elle, ne simule pas nécessairement le cerveau. Elle peut faire appel à des réseaux de neurones formels, mais elle s'intéresse à l'intelligence. Elle décompose l'intelligence en éléments, par exemple le raisonnement, la mémoire, la reconnaissance des visages, la reconnaissance de la parole. Et puis elle va essayer de simuler chaque aspect de l'intelligence sur une machine. Cette discipline a eu des succès étonnants, hein, puisque bon, on ne le sait pas assez, mais le web, par exemple, provient au départ d'une modélisation de la mémoire qui a été faite par Ted Nelson avec la notion d'hypertexte, et puis ensuite qui a été reprise dans les années, au début des années 90 par Tim Berners-Lee. Et bon, ça a donné beaucoup de résultats extraordinaires, mais il faudrait citer beaucoup d'autres choses, les machines à dicter, les systèmes de reconnaissance visuelle qui peuvent exister, hein, je ne vais pas tous les citer. Donc on est capable de simuler la pensée sur des machines, mais sans tout à fait reproduire le cerveau. Et la question, je crois, qui est celle de cette table ronde, c'est est-ce qu'on peut reproduire le cerveau sur une machine ? Alors, tout d'abord, il faut bien dire que la reproduction du cerveau sur une machine peut avoir énormément d'utilité. Ça nous permet de mieux comprendre le cerveau. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein, c'est la naissance des neurosciences computationnelles. Hein, un tout petit peu quand même avant hein, les années 90, hein, mais ça s'est beaucoup développé effectivement à partir des années 90, comme vous l'avez dit, et avec des résultats extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'on va prendre différents phénomènes qui sont observés par les neurosciences, souvent en collaboration avec des disciplines qui observent le psychisme, qui s'intéressent aux aspects linguistiques. Et ensuite, on va essayer de voir si on peut mieux les comprendre avec des modélisations. Donc, il y a énormément d'équipes de recherche qui travaillent là-dessus. Et c'est dans ce cadre, bien sûr, que prend place hein, le Human Brain Project. C'est un énorme projet. Hein. Il faut quand même dire qu'il y a plus de 80 équipes de scientifiques dans 22 pays qui travaille de concert avec un financement sur 10 ans, ce qui est quand même énorme, qui est de 1,2 milliard d'euros. Donc c'est un projet énorme et dont le but est de mieux comprendre le cerveau. Je crois qu'il ne faut pas penser qu'on va avoir un petit cerveau dans ces énormes machines. Ça n'est pas... voilà, c'est...
Le deuxième, je vous renvoie à la balle parce qu'il est dans votre camp, il y a un vrai but d'impulser des idées dans le monde des technologies de l'information pour générer des nouveaux systèmes informatiques.
Tout à fait.
C'est un deuxième but qui est affiché au même niveau. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il est vraiment affiché au même niveau. Alors, c'est vrai que le premier, il était dans l'ordre, il y a écrit « mieux comprendre le cerveau ». Mais dans le deuxième but qui vient immédiatement derrière, c'est en profiter pour générer des nouvelles machines.
Tout à fait, parce que dans la mesure où on utilise les machines comme modèle du cerveau, on va éventuellement faire apparaître des propriétés de ces machines extrêmement complexes qui pourront être utilisées dans d'autres applications qui sont extrêmement pratiques pour tout le monde. Il faut savoir que l'intelligence artificielle elle-même et la cybernétique étaient issues de cette volonté de modélisation. C'est pour ça que je voulais la faire remonter un tout petit peu plus loin pour dire que cette idée est assez ancienne d'utiliser l'artificiel pour mieux comprendre le naturel et en retour de tirer parti de ce que l'on connaît du naturel pour avoir de nouvelles fonctionnalités dans le domaine artificiel. Et ces choses-là sont extrêmement passionnantes. Alors, la question, bien sûr, qui se pose aujourd'hui, il y a eu toute une polémique autour du Human Brain Project, c'est qu'il y a un équilibre entre les aspects biologiques et puis les aspects informatiques. Et il semblerait aujourd'hui que certains spécialistes de neurosciences, mais pas tous, se plaignent en disant que les aspects informatiques ont pris un peu le dessus sur ces questions-là. Et là, bon, bien sûr, c'est une question tout à fait passionnante et ouverte. Dernier point, vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut-être pour le préciser, est-ce qu'on peut lire les pensées dans le cerveau, donc non, même les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale permettent de trouver des corrélats à certaines activités cognitives. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait comment je me représente mon grand-père ou qu'est-ce que c'est que pour moi l'idée de lit dans mon cerveau, ça je ne la vois pas. En même temps, ces corrélats peuvent être utiles et on fabrique aujourd'hui des systèmes d'interaction cerveau-machine qui permettent, parce qu'on utilise des techniques d'imagerie cérébrale, en particulier d'électroencéphalographie, Et ça permet de corréler les signaux avec une volonté, et on fait ça automatiquement avec des techniques effectivement d'intelligence artificielle qui sont ce qu'on appelle de l'apprentissage machine ou du machine learning. Et alors c'est quand même très très limité, bien sûr, mais ça permet de, si on pense qu'on veut déplacer un curseur sur la gauche, et bien d'avoir effectivement une machine qui est capable de repérer que sur un sujet particulier il pense qu'il veut déplacer un curseur sur la gauche. Et si on déplace un curseur sur la gauche aujourd'hui sur un ordinateur, on est capable de faire énormément de choses, c'est ce qui explique le succès considérable de ces dispositifs.
Je me permets, mais je voudrais pas. Je voudrais juste réagir parce que je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être intéressant de se souvenir à propos de lire la pensée des gens. Il y a deux applications qui ont été évoquées par M. Ganassi à l'instant. La première, c'est dans un système contraint, quand on a véritablement identifié un exercice particulier, on est capable de le retrouver dans des images sans a priori. Et vous avez peut-être entendu parler d'une application chez des malades gravissimes, bien sûr, enfin, pas bien sûr, mais des malades gravissimes, d'une application qui a été utilisée chez des personnes extraordinairement handicapées. Ça s'appelle un locked-in syndrome. C'est un centre expert internationalement reconnu en Belgique qui a utilisé l'imagerie et cette application-là chez des gens qui sont donc locked-in syndrome, c'est des personnes qui ont subi soit un accident vasculaire soit un traumatisme et qui sont en fait ont toutes les apparences de gens dans le coma, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune réaction, mais absolument aucune, pas même un clignement d'œil, rien, et qui pourtant ont une conscience totalement préservée. Donc locked-in, ça veut dire enfermé en soi-même. Grosse différence par rapport au coma. Le coma étant, ils n'ont pas de conscience. Et cette technique d'imagerie-là a été utilisée chez des gens à qui on a réussi à faire percevoir, on leur a demandé de penser à des choses précises dont on savait par leur entourage que s'ils étaient conscients, ils pouvaient y penser. Et ça a permis, chez deux ou trois personnes, c'est totalement ponctuel, chez deux ou trois personnes, ça a permis de dire non, cette personne-là n'est pas dans le coma depuis 10 ans comme tout le monde le croit, cette personne-là a un niveau de conscience qui est préservé, puisque quand on arrive à lui faire exprimer quelque chose uniquement par la pensée, on sait le voir par les images. Ça, c'est la première application vraiment importante en médecine. La deuxième application importante en médecine qui est en train de sortir, c'est ce qu'on appelle toutes les techniques de biofeedback, neurofeedback, c'est-à-dire que si on utilise ces techniques-là en faisant reconstruire les images de l'activité du cerveau, je vous parle de l'imagerie, je ne vous parle pas de l'électroencéphalogramme, de faire reconstruire les images en continu pendant l'acquisition, c'est-à-dire le sujet est dans la machine, il a un écran et il voit son cerveau en continu updater son activation, ce qui est tout à fait possible grâce aux computers extraordinaires qu'on nous fournit et toujours plus beau chaque année, toujours plus puissant chaque année. On leur montre donc leur carte d'activation cérébrale en continu et on leur dit quand ça s'allume là, c'est parce que vous, par exemple, ça c'est dans la douleur. Si vous avez une perception douloureuse intense, vous allez voir cette région-là va s'activer plus fort. Vous devez trouver le stratagème mental pour faire diminuer cette activation-là. Et vous faites diminuer cette activation-là et à ce moment-là, vous ne sentez plus votre douleur. Et ça a été démontré sur le plan expérimental, ça marche.
Merci beaucoup. Alors, la question du calcul et donc de ce qui est capable de produire une machine est très importante à ce niveau-là, parce que finalement, on essaye d'intégrer dans l'ordinateur, dans la machine, le fonctionnement du cerveau humain, donc de la pensée, ce qui veut dire aussi d'une partie presque organique du fonctionnement. Or, le cerveau ne fonctionne pas forcément comme les machines, bien que le cerveau ait fabriqué les machines. Donc, quelles sont les limites, les développements possibles, justement, grâce au calcul et aux machines aujourd'hui ?
Donc, c'est vrai, là, ce qui était intéressant dans la prise de parole consécutive de Mme Erspany et de M. Ganachia, c'est que on discute un peu du cerveau dans la manière dont il fonctionne. Et je dirais, quand on considère les machines et les algorithmes, il y a une différence de fond par rapport au cerveau. Cette différence de fond, c'est que dans le cerveau, les pensées naissent directement à travers le matériel. Si on considère ça du point de vue des algorithmes, par exemple, M. Ganachia peut-être travaille sur des réseaux de neurones, des choses comme ça, des systèmes experts. On pense à une méthode, donc un algorithme en informatique, et puis on va appliquer cette méthode sur une architecture informatique. Par exemple, on peut imaginer différents types de réseaux de neurones avec différentes connexions ou différents systèmes experts qui vont fonctionner sur les mêmes architectures informatiques. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est quand on considère ce qui se passe un peu dans les sciences de l'information, c'est que on n'a pas ce couplage, c'est-à-dire les ordinateurs, si vous voulez, on a une différence vraiment de fond entre les architectures des ordinateurs et l'architecture du cerveau. Les architectures des ordinateurs évoluent. Monsieur Ganachia parlait plutôt du côté des algorithmes, si vous voulez, mais les ordinateurs eux-mêmes, la structure des ordinateurs évolue. Donc je me suis amusé un peu à recenser quelles étaient les différences principales entre les architectures informatiques et le cerveau, parce qu'on s'imagine que pour simuler le cerveau, bah, dans une certaine mesure, il faut être capable d'avoir le matériel adéquat. Et il y a certaines analogies qui sont intéressantes, un peu disparates comme ça, mais c'est que, déjà, quand on y pense, le cerveau, c'est quelque chose qui fonctionne de manière électrique, mais également chimique. Il y a des synapses, il y a de la chimie qui se passe, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure. Et ça le rend intrinsèquement un peu lent, le cerveau. Alors, attendez, je vais compléter mon propos, mais ça le rend un peu lent parce que les interactions chimiques sont lentes. Dans l'ordinateur, on a c'est que de l'électrique, et donc les interactions sont très très rapides. Alors ça, c'est un gros avantage du côté des ordinateurs. Mais l'ordinateur a toute une série maintenant vraiment de désavantages, si vous voulez, comparé au cerveau, et qui sont des choses qui sont un peu étudiées maintenant dans les sciences de l'information, mais plutôt même du côté hardware, c'est-à-dire du côté de l'architecture des ordinateurs. Les premières choses auxquelles on peut penser, c'est que dans le cerveau, il y a vraiment beaucoup de types de neurones différents. Alors ça, je pense pas, mais là, je connais pas assez qu'on ait le neurone formel, un peu, si vous voulez, du côté de l'intelligence artificielle, c'est un peu toujours la même chose. Il y a différents types de systèmes experts, mais si vous voulez, la forme des neurones n'influe pas vraiment sur les algorithmes élaborés de ce côté-là. On a beaucoup de neurones différents, mais on a aussi beaucoup de réseaux fonctionnels différents. Il y a différents types de parties dans le cerveau qui vont avoir différents buts. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça, on sait le reproduire du côté des algorithmes sur différents types de machines. Le cerveau, il est profondément... C'est quelque chose qui est asynchrone. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez, votre cerveau, il va faire plein d'opérations de manière complètement ou pas, d'ailleurs je suis pas sûr, mais découplée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fréquence comme dans les puces des ordinateurs qui vous dit il faut faire ça à tel moment. On a vraiment un fonctionnement qui n'est pas sans horloge interne, si vous voulez. Et ça, il commence à y avoir dans l'industrie. Par exemple, IBM vient d'annoncer qu'il mettra en production bientôt une puce qui est donc neuromorphique, qui s'inspire du fonctionnement du cerveau, avec une implémentation hardware des réseaux de neurones qui sont d'habitude des algorithmes. Dans cette puce, effectivement, le fonctionnement de la puce lui-même est asynchrone comme dans le cerveau. Donc là aussi, on voit un peu que les côtés vraiment machines essayent de s'inspirer de ce qui se fait vraiment dans la biologie, quoi. Y a un autre côté qui est intéressant dans le cerveau, c'est le fait que le cerveau est massivement parallèle, c'est-à-dire en permanence, vous recevez plein d'informations du cortex visuel, auditif, du toucher, etc. Toutes ces informations-là sont traitées quelque part, vous n'en avez pas forcément conscience. Ça suppose de pouvoir faire plein d'opérations en même temps, donc vous n'êtes pas conscient. Et les ordinateurs, ça, ça fait longtemps qu'il y a une technologie qui s'appelle le High Performance Computing, et on travaille beaucoup dessus. Moi, je travaille un peu sur ces activités-là, mais c'est vraiment c'est une discipline qui est en pleine explosion, parce que ce qui est très compliqué au niveau des architectures informatiques, c'est qu'on sait paralléliser, par exemple, un calcul de la réflexion du CPU. Mais c'est très compliqué à la fois d'avoir beaucoup de mémoire, c'est-à-dire par exemple, je vais étudier un problème, il me suppose de garder en mémoire beaucoup de choses, et on a du mal en fait à la fois à avoir de la puissance de calcul et à la fois à avoir de la mémoire, c'est-à-dire partager la mémoire et la puissance de calcul. Ça, c'est quelque chose que le cerveau fait parfaitement bien. Pourquoi ? Parce que l'information, votre mémoire, votre passé, votre passif, tout ça, c'est stocké dans les neurones qui eux-mêmes traitent l'information. Or, dans les ordinateurs, c'est découpler l'endroit où on stocke l'information et l'endroit où on la traite. Et bien là, c'est pareil, il commence à émerger des méthodes en sciences de l'information dites de big data. Et ces méthodes-là permettent de fouiller de l'information. Et même si on poursuit l'analogie, on voit qu'en big data, il y a une méthode, je ne vais pas rentrer dans les détails, par exemple, qui s'appelle MapReduce, qui vise à essayer de fouiller très rapidement dans des gros volumes de données. Et cette méthode-là, elle fait un peu penser à certains types de neurones, comme par exemple les neurones fuseaux, qu'on ne voit que dans les espèces assez évoluées, plutôt que des mammifères, je crois, des cerveaux larges dans lesquels il faut aller récolter de l'information très rapidement. Et c'est pareil, du côté de cette nouvelle discipline qui s'appelle le big data, on collecte l'information très rapidement, un peu comme dans la biologie avec les neurones fuseaux, et on a tendance aussi à délocaliser vraiment, c'est-à-dire à stocker l'information et à la traiter au même endroit, ce qu'on ne faisait pas avant. Mais je vois que ça inspire peut-être, vous voulez peut-être rebondir dessus ?
Non, je trouve que c'était un tout petit peu paradoxal, parce que moi j'ai l'impression que j'ai du mal à penser à deux choses à la fois. Ça m'arrive de temps en temps, je m'exerce, et c'est difficile. Et les machines, ça fait très longtemps qu'elles sont capables de faire du temps partagé, depuis le début des ordinateurs, pratiquement. Les années 50 ont fait du temps partagé, donc c'était juste une petite remarque.
Si je peux me permettre, vous avez beaucoup de mal à faire deux choses en même temps quand il s'agit de deux choses conscientes.
Voilà, c'est ça.
Vous passez l'essentiel de votre temps à faire 90% de choses inconscientes et dévouez à peine 10% de votre énergie à faire des choses conscientes. Mais, et en particulier, une des choses que vous faites là, par exemple, en ce moment, en tout cas, nous, on a un peu de mal, c'est essayer d'occulter le bruit de la conférence derrière pour essayer d'être concentré sur ce qu'on se dit et ce que j'espère vous entendez et que j'espère vous intéresse.
Et donc pour terminer, il y a deux autres différences, je dirais. C'est que pour l'instant, on va par exemple, pour essayer de mettre au point des systèmes experts, on va déployer ces systèmes, ces algorithmes sur des architectures qu'on appelle des supercalculateurs. Par exemple, le plus gros calculateur au monde en ce moment, c'est une machine qui s'appelle Titan, qui possède 200 000 cœurs, qui est à Oak Ridge National Laboratory. Elle a une puissance de 20 pétaflops, c'est-à-dire 20... c'est 20 fois 1 avec 12 zéros derrière les opérations flottantes par seconde. C'est quelque chose qui est colossal. Et on déploie donc des calculs sur des architectures comme ça qui sont extrêmement performantes. Mais il en reste pas moins qu'il y a deux choses, il me semble, qu'on ne sait toujours pas reproduire. Ces machines-là, elles consomment énormément de puissance. Typiquement, alors j'avais noté, je crois que c'est typiquement Titan. C'est une machine qui consomme 8 mégawatts en crête. C'est-à-dire que quand elle fonctionne, elle prend par exemple un centième de la puissance qui va être produite par un réacteur nucléaire. Donc c'est quelque chose de colossal. Le cerveau, et donc là je vais dire une bêtise, je vais me faire corriger directement par ma collègue là-bas. Le cerveau, j'avais noté, oui, c'est quelque chose du style de l'ordre de quelques watts. Voilà. Donc, en gros, les calculs les plus puissants tournent en ce moment, demandent une énergie, mais qui est colossale. Et on ne sait pas du tout, si vous voulez, avoir cette espèce de d'économie en énergie du côté des ordinateurs. Et c'est pour ça qu'on attend aussi beaucoup d'améliorations matérielles, un peu comme cette nouvelle puce d'IBM, là, qui est peut-être assez futuriste, mais qui va quand même passer en production. Et la dernière chose aussi, c'était auquel j'avais pensé, c'était que je me disais que le cerveau, il est profondément... alors, je crois qu'il y a eu une théorie, là, avec les gens de l'université de Parme qui avaient travaillé sur les neurones miroirs, et donc qui disaient que dans certaines zones du cerveau, les neurones qu'on reproduit en algorithmique par des neurones formels, donc, avaient un pendant qui était un neurone miroir et qui favorisait l'apprentissage, qui faisait qu'on avait tendance à s'imiter les uns les autres. Par exemple, si je baille, vous allez bailler aussi, peut-être à cause de ça. Et le truc, c'est que ces neurones miroirs-là, alors après, c'est probablement spéculatoire à l'heure actuelle, mais on leur prête un peu le fonctionnement un peu empathique du cerveau, c'est-à-dire le fait qu'on fonctionne vraiment en groupe. Et ça, pour l'instant, c'est-à-dire si on s'amusait à essayer de reproduire un seul cerveau comme ça sur un ordinateur, s'il n'était pas en interaction avec d'autres cerveaux, on n'imagine pas trop ce que ça pourrait donner d'intéressant. Mais je crois que du côté là, il y a les systèmes, il y a certains, des systèmes multi-agents qui eux sont des systèmes, enfin, qui font partie justement de ce type d'algorithme-là et qui interagissent entre eux et qui peuvent reproduire un peu ces fonctionnalités-là.
Oui. Donc ça correspond à un aspect, à une étude des fonctionnalités du cerveau, mais c'est dès qu'on essaie de réfléchir finalement au statut, à ce qu'est l'intelligence à proprement parler, notamment ce qu'elle est pour nous, c'est-à-dire son aspect humain, est-ce qu'on pourrait distinguer d'un côté la puissance de calcul justement qui est déployée qui est déployée et qui justement qui permet de faire ce calcul parallèle, peut-être la méthode de calcul qui est employée, mais il me semble nécessaire de distinguer ça de la raison, c'est-à-dire de l'objectif de cette puissance de calcul. C'est, finalement, si on a un cerveau dans la cuve, c'est un cerveau flottant, mais il n'y a pas de données qui est rentrée, le cerveau ne réfléchirait pas puisqu'il n'y rêvait rien. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des développements, et même sur le plan éthique, hein, sur le plan moral, de nouvelles perceptions de l'intelligence humaine vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce genre d'études? Est-ce qu'on peut faire cette distinction également?
Catherine, si tu as des idées. Non, je voulais rebondir sur ta question, puisque il paraît évident qu'en force pure, on peut parfaitement reproduire un fonctionnement cérébral grâce à l'intelligence artificielle. Hein, on se rend bien compte que pour ce qui est de jeu aux échecs, ça fait longtemps que les ordinateurs ont dépassé le cerveau humain. Par contre, qui nous échappe encore en intelligence artificielle, arrêtez-moi si je me trompe bien sûr, c'est la libre association d'idées. Et surtout le plaisir qu'on y prend et qui fait que l'être humain recourt à la libre association d'idées, c'est-à-dire qu'il crée. Alors, il peut créer des choses utilitaires comme les ordinateurs, mais il peut aussi créer des choses ayant une fin en soi. Donc, des choses qui sont leur propre fin, ce qu'on appelle la finalité sans fin, en clair, tout ce qui est poésie et créativité artistique. Là, je suis en train de vous parler du sens du beau. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, parce que l'auteur qui en parle le mieux, c'est quand même pas moi, c'est Kant. Lui, il en a déduit l'existence de Dieu. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui, à terme, sera reproductible par ordinateur, ou est-ce que ce sera tout simplement une conséquence, peut-être dramatique, de la complexification des cerveaux artificiels? Est-ce que ça va un jour émerger comme la solution à des paradoxes créés par la complexification d'une intelligence artificielle?
Alors, première chose, est-ce que la rapidité des calculs produit naturellement de l'intelligence? Bon, d'abord, si elle la produisait, ce serait artificiellement. Non, pas tout à fait. Et par exemple, lorsqu'une machine joue aux échecs, On dit souvent que c'est un succès de l'intelligence artificielle, puisqu'on a une machine qui est capable de battre les meilleurs d'entre les hommes. Et en même temps, on peut se dire que c'est un échec de l'intelligence artificielle, parce que la façon dont la machine arrive à surmonter son adversaire est très différente de ce que l'homme fait. Et donc, si l'intelligence artificielle s'est essayé de reproduire sur la machine un certain nombre de capacités intellectuelles, eh bien, c'est un échec parce qu'on fait différemment. Alors, on fait mieux, mais on fait autrement. Il y a des gens qui ont essayé de faire la même chose. Et on se retrouve, je crois, avec cette question-là, dans une problématique qui est tout à fait analogue à celle qu'on pose sur la reproduction du cerveau. C'est un modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Ça n'est jamais la réalité. C'est comme une carte, ça n'est pas le territoire. Un modèle, c'est un intermédiaire entre nous et l'objet qu'on essaye de comprendre. Et l'ordinateur est un extrêmement bon modèle de ce point de vue-là, parce qu'il nous a permis d'approcher énormément de réalités et de faire énormément de progrès. Et on peut aussi approcher des questions comme la créativité avec des ordinateurs. Et nous-mêmes, dans notre équipe, il y a quelques années, on avait approché la créativité artistique, la créativité musicale, avec ce modèle de mémoire, cette idée que l'imagination, c'est une combinaison d'éléments que l'on a en tête et qu'on est capable de mettre ensemble de façon inhabituelle. Comme dans la mythologie égyptienne, par exemple, les dieux sont des mélanges de différents animaux. Un homme à tête de chacal, un corps de lion avec une tête différente, etc. Et donc, c'est ce type de choses qu'on peut essayer, dans certaines limites, bien sûr, de reproduire sur une machine. Et de ce point de vue-là, on a des machines qui font des petites choses un petit peu créatives. On avait appliqué ça à une créativité minimale, mais qui n'est pas si faible que ça. C'était l'improvisation en jazz. Et là, vous avez, à chaque moment, puisque la partition n'est pas complètement écrite en jazz, eh ben on arrivait justement avec des éléments de mémoire, le contexte, la façon dont les autres jouaient, l'atmosphère de la salle, eh ben à reproduire un joueur de basse. Il y a aussi d'autres travaux qui ont été faits en peinture, pour essayer de faire de la peinture artificielle. Mais ce ne sont que des modèles, et bien sûr, c'est très très ponctuel, mais ça nous permet de mieux comprendre certains aspects de la création. Et moi, quand j'avais fait ça en jazz, c'était passionnant, parce qu'on avait interagi avec des joueurs de basse, et nous a dit, ah ben tiens, la machine fait bien, mais là, peut-être que j'aurais pas fait ça, ou la machine n'est pas logique. On a eu peur, on s'est dit, comment, notre machine n'est pas logique ? Il nous a dit, oui, elle n'était pas logique, parce qu'il n'y avait pas de cohérence, parce qu'on modélisait chaque instant séparément, et ensuite, on avait rajouté d'autres choses pour avoir une continuité dans le temps qui donnait une construction plus élaborée. Voilà.
Du coup, j'en profite pour vous poser une question, parce que je rebondissais aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure. Picasso avait dit à un moment, les ordinateurs sont tout à fait inutiles, ils ne donnent que des réponses. D'un air de dire, ils ne savent pas poser de questions. Alors autant je comprends que c'est vrai qu'un ordinateur, c'est-à-dire sur le fait qu'on puisse avoir des idées liées, qu'on ait un comportement dynamique en temps, c'est-à-dire qu'il y ait une progression du cerveau, une progression de la réflexion, j'imagine facilement qu'on puisse un peu mettre ça en œuvre, donc du côté des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Par exemple, j'avais été fasciné par Google qui, en collaboration avec Stanford, avait réussi à mettre, en fait, ils avaient mis une intelligence artificielle qui tournait sur 16 000 processeurs et puis qui avait réussi à reconnaître sur YouTube des chats sans qu'on leur demande de reconnaître des chats. Donc c'était plutôt des choses comme les cartes auto-organisatrices, des choses comme ça. C'est-à-dire vraiment, il regardait plein d'images et il finissait lui-même par se dire, bah tiens, ça je l'ai déjà vu quelque part. Voilà, c'est quelque chose que je vais appeler un chat, et ça, c'est un être humain, etc. Donc là, il y a un certain niveau de pensée, mais c'est vrai que ce que je n'ai jamais vu, et je ne sais pas si ça existe, est-ce qu'on peut faire émerger un questionnement dans les algorithmes ?
Ça dépend de ce qu'on appelle un questionnement. Si on a une machine qui interagit avec un homme, elle peut éventuellement susciter un certain nombre de questions que l'homme aurait oublié de se poser. Ça, on est capable de faire ce genre de choses, tout à fait. Et nous, par exemple, on travaille, j'ai un projet sur des questions d'éthique de machine, prendre une décision qui soit moralement justifiée. Justement, dans un système multi-agent où il y a différents acteurs et entre autres des machines, les machines peuvent, parce qu'elles ont un certain nombre d'informations, susciter des questions et nous dire, attention, est-ce que vous avez pensé à telle ou telle chose ?
Alors moi, j'ai vu une fois dans ma vie la preuve de créativité ordinatoriale. Si un jour vous voulez voir ça, vous payez une imprimante 3D, c'est pas donné. Une imprimante 3D, vous lui dites de vous fabriquer une toupie. Une toupie, c'est tient sur un axe. Or, donc, elle a comme ordre de faire la toupie. Donc, la toupie n'a aucun intérêt, c'est un truc usiné. Et pour que la toupie la fasse bien, elle est obligée de construire en dessous un petit échafaudage. Et là, pour l'échafaudage, elle n'a pas d'ordre de forme. Il faut que ça tienne. Voilà, c'est son seul ordre. Donc, votre imprimante 3D, elle va fabriquer un échafaudage qu'elle va, si je puis dire, imaginer elle-même. Donc, une fois que vous avez vu se créer cette toupie dénuée d'intérêt, tout autour, vous avez une preuve concrète d'une créativité par une machine. Donc, vous jetez la toupie et puis vous gardez le petit échafaudage. Moi, je crois que j'ai toujours sur moi. J'ai trouvé ça magnifique.
Je voulais juste revenir sur un commentaire qui avait été fait sur, quelque part, les performances liées à la rapidité de l'ordinateur. Et moi, je suis médecin hein, au départ, donc, enfin, même au départ et à la suite, à la fin aussi d'ailleurs. et donc, pardonnez-moi de revenir à la pathologie et de nos frères, les hommes. Je voudrais juste rappeler quelques exemples, et notamment, par exemple, ceux que vous connaissez des autistes hyper performants. Vous connaissez ce qu'on appelle, pardonnez-moi, mais bêtement, le génie mathématique d'un certain nombre d'autistes, qui sont des gens qui sont des grands handicapés. C'est terrible, c'est une vie extraordinairement difficile pour eux et pour leur famille et pour leur environnement, et qui sont des gens qui sont capables de vous sortir des calculs absolument incroyables à la puissance 12 en l'espace de 4 secondes, qui sont capables de vous donner le jour précis du 18 mai 1800 ou 1642, si ça existait, etc., et qui sont donc des gens avec une rapidité de processing absolument stupéfiante que n'importe qui d'autre n'arrive jamais à atteindre, et qui sont pourtant, pardonnez-moi, mais gravement dysfonctionnel. Et en pathologie, notamment des pathologies dites développementales, c'est-à-dire celles qui prennent origine dans le développement cérébral de l'enfant, donc qui touchent l'enfant, mais qui évidemment se poursuivent à l'âge adulte, il y a un paquet de pathologies qui sont en fait liées au fait, je vais faire l'éloge de la lenteur, l'apologie de la lenteur, qui sont en fait liées au fait que, pendant le développement cérébral, l'élagage de circuits parallèles qui envoient de l'info à toute vitesse tout le temps ne se fait pas correctement. Je reviens en arrière sur le développement normal. C'est un peu comme pour l'ordinateur. C'est pour expliquer que des circuits parallèles qui déchargent à toute vitesse, ce n'est pas forcément efficace du tout. Dans l'enfance, le cerveau de l'enfant se développe avec, à la naissance, un contingent de neurones qui, à peu de choses près, va rester celui qu'il aura toute sa vie d'adulte. Il y a un peu de neurogénèse, mais pas beaucoup. Ce qui change complètement, c'est le nombre de connexions qu'il va y avoir entre ces neurones. Et ce nombre de connexions, de façon extraordinairement intéressante, il commence par se développer en surabondance considérable, puisqu'il se développe à 300% de ce qu'il va être pendant l'adulte. Autrement dit, il fait comme ça, il monte au plafond, et ensuite, pendant l'enfance et l'adolescence, il redescend pour arriver à un niveau d'adulte. Et cette deuxième phase est largement plus intéressante pour le développement de l'enfant que la première. Se monter comme ça au plafond, c'est très utile. Ça fait plein de réseaux parallèles qui déchargent à toute vitesse. Mais si on en reste là, on ne fait pas un adulte qui est cognitivement apte. On a besoin d'élaguer un certain nombre de circuits pour garder des circuits qui sont certes rapides, mais qui sont mêlés à des circuits qui sont moins rapides et qui sont surtout sélectionnés en fonction de leur pertinence. Voilà. De l'éloge du... Comment est-ce qu'on va dire en matière d'écologie, c'est de l'éloge de la... Zut, je cherche un mot. Aidez-moi. De l'efficience, de la gestion des ressources, si vous voulez. Enfin bref, vous allez trouver les mots qui vont.
Merci bien. Et j'avais une dernière question, c'est qu'il y a un aspect, quand on prend un petit peu de recul aussi, de Prométhée moderne dans cette expérience de reconstitution du cerveau et qui est très importante, qui est très intéressante pour nous directement, c'est-à-dire notre relation à la création. On a parlé du cerveau, des expériences pour simuler des créations, des choses comme ça, mais est-ce que ça n'est pas une création directement que nous sommes en train de faire ? Parce qu'on parle de mimer le cerveau, mais on voit que l'intelligence qu'on possède se construit également énormément par le mimétisme, et d'ailleurs par le mimétisme peut-être en premier lieu. Et le cerveau qu'on essaye de reproduire, sera-t-il capable lui-même de mimer, etc. Et finalement, c'est très étrange, parce que est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une sorte de nouvelle reproduction ? Est-ce que ce n'est pas un premier essai d'un nouveau type de reproduction qui a lieu comme ça ? C'est un statut très étrange, finalement, parce que c'est une première aussi, cette expérience de création-là, du cerveau. Donc j'aurais aimé connaître votre avis sur la question.
Alors, première chose, c'est pas une première, parce que ça fait quand même longtemps que les hommes ont essayé de se reproduire eux-mêmes avec des machines. J'ai parlé de la cybernétique tout à l'heure, c'était une tentative de cet ordre-là. Et puis, bien avant, avec les automates, il y avait quand même des idées comme celle-là, même si c'était des moyens qui nous apparaissent aujourd'hui comme étant extrêmement frustres. Il y avait dans la littérature cette idée-là. Et bien sûr, il y a tout un tas de mythologies sur la capacité que l'on a à reproduire quelque chose d'autre qui serait une espèce de conscience. Alors, il y a des mythes comme Pinocchio, mythes comme le golem, par exemple, qui sont tout à fait de cet ordre-là. Je crois que ce qui est intéressant dans ce projet très précis, c'est qu'il s'attache vraiment au cerveau lui-même et qu'il peut faire des progrès considérables dans la compréhension. Je crois que c'est ça qui est important, et éventuellement dans le calcul. Avec une question ouverte, qui est celle de la conscience. Est-ce que, parce que, bien sûr, le cerveau, on suppose que c'est le siège de la conscience, est-ce qu'on peut aborder la conscience avec ce type de modélisation ? Et je sais qu'il y a des travaux qui se font là-dessus. Bien sûr, nous en sommes loin, mais en tout cas, ce sont des questions qui, je crois, sont passionnantes et qui méritent qu'on réfléchisse beaucoup et qu'on le regarde. Et en même temps, je crois qu'il faut bien distinguer toujours le modèle de la réalité. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de cerveau sur un ordinateur. On a des approches du cerveau avec des ordinateurs.
Et pour compléter votre propos, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va être délicat d'essayer de faire émerger des phénomènes de conscience sans doter les ordinateurs de buts en particulier. Parce qu'on s'imagine que si on codait un cerveau presque tel quel, qu'on en avait les moyens, ce qui n'est pas encore le cas, sur un ordinateur, il n'aurait pas de but particulier, on n'imagine pas tellement ce que ça donnerait. C'est vrai que le développement de l'homme, il s'est fait, on cherche quand même à survivre et à se reproduire, et autour de ça on va déployer des stratégies qui vont être plus ou moins complexes en fait, et dans le néocortex on génère des représentations qui nous permettent d'arriver à ces fins là mais on a toujours une finalité, c'est-à-dire qu'on cherche à faire quelque chose. Et c'est pour ça que du côté de la conscience artificielle, j'aurais plutôt tendance à regarder ce qui se fait dans les systèmes multi-agents, plutôt que vraiment dans une espèce de reproduction telle qu'elle du cerveau, dans le sens où les systèmes multi-agents sont des systèmes qui interagissent entre eux et qu'éventuellement on peut doter d'un but. Et autour de ce but-là, on peut effectivement équiper les algorithmes pour qu'eux-mêmes évoluent. Et c'est vraiment, à mon sens, le fait que ces entités informatiques aient une finalité qui va leur permettre d'évoluer et de faire émerger des comportements plus ou moins complexes, éventuellement des représentations qui seront comparables à la conscience. Et d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion qu'il existe un peu le même genre d'entité que celle dont je suis en train de parler, déjà dans l'espace numérique, de même que la vie apparue sur Terre avec des virus dont le but était vraiment de se reproduire et de survivre. Et ben, il existe des virus informatiques. Et les dernières générations de virus, je pense à Stuxnet ou à Flame, sont vraiment des outils qui sont incroyables, dont on imagine qu'ils sont développés par des États. Par exemple, vous avez sûrement entendu en Iran, il y avait une centrale nucléaire, enfin un site d'enrichissement de la matière qui avait été hacké par un virus. Et en fait, l'idée, ça avait été de faire augmenter la vitesse des pales, des rotors sur vraiment les machines qui font l'enrichissement pour les brûler. Et pour faire ça, il a fallu qu'il y ait un virus qui se reproduit partout, qui survive. Et en fait, c'était un ensemble de virus. et qui finissent par s'infiltrer. Bon, ça a été via une clé USB sur ce site-là, c'est le site de Natanz. Et en fait, cette technologie de virus-là a été étudiée et elle est extrêmement complexe. Dans une certaine mesure, il n'y avait pas de réseau de neurones, mais elle était dotée d'une manière... elle était équipée pour pouvoir vraiment apprendre d'interaction avec d'autres virus de son espèce. Et c'est ça qui a permis de vraiment d'assurer sa réussite. Et de la même manière que la vie s'est développée à partir des virus sur Terre, on pourrait spéculer que ces virus-là qui vivent sur le réseau, dans cet univers parallèle qu'est le réseau informatique, que ceux-là, comme ils ont un but bien précis, qui est le même que celui des êtres humains, finissent par se développer beaucoup aussi. Mais bon, après, là, c'est vraiment de la spéculation.
Au risque de casser la baraque, ma propre baraque, je voudrais juste revenir sur le but, par exemple, d'un projet comme le Human Brain Project. Il s'agit de simuler le cerveau humain. Et pour le simuler, on considère quand même qu'il y a un référentiel, c'est la connaissance du cerveau humain. Et ça fait écho à la notion de conscience. Parce que, bon, sans rentrer dans des discussions sémantiques, c'est quand même très important, il n'y a pas la conscience, il y a les consciences. Il y a, sur le plan cognitif, la conscience, c'est un truc particulier. Je vous disais, est-ce qu'on est conscient des stimuli qu'on entend et qu'on essaye d'effacer pour se concentrer? Il y a la conscience morale, il y a la conscience de soi, il y a la conscience des autres. Enfin, la conscience, ça n'existe pas. De même que l'intelligence, ça n'existe pas. Les intelligences, d'ailleurs ici, le programme, c'est les intelligences. C'est pas seulement humaine et artificielle, les intelligences humaines. Bref. Donc, ceci mis à part, on simule avec un référentiel, on suppose. Il y a quand même, on part pas de zéro. Et finalement, à mon sens, le principal enjeu qui va faire qu'il faut franchement casser la baraque et pas imaginer un truc qui serait certes de l'ordre de la création, mais c'est presque de la création artistique plutôt que de la création scientifique, c'est que la limite de ce projet, à mon sens, je renvoie la balle à mes collègues qui font des technologies de l'information, c'est pas dans leur champ quelles sont les limites. La limite du projet, c'est que dans un système comme celui-là, notre objet d'étude, nous en sommes sujets. Nous nous observons nous-mêmes avec nos filtres. Je m'observe, j'observe le cerveau des autres, mais en fait, j'observe mon cerveau. J'observe. Donc, l'homme se fait à la fois sujet d'étude, objet d'étude. Sur le plan épistémologique, c'est extrêmement compliqué. Mais je pense que la limite du système, c'est que c'est pas demain matin qu'on connaîtra notre propre cerveau et que donc le simuler en référence à la connaissance qu'on en aura, ce sera déjà un premier but et c'est l'objet de ce truc-là. Mais de là à dire qu'on saura faire un cerveau humain, comme déjà on sait pas ce que c'est, je voudrais bien savoir comment on peut le simuler.
Merci beaucoup. Et on arrive au bout du temps qui nous a été imparti pour la conférence. Bon, on voit bien que les enjeux sont extrêmement vastes, vertigineux, voire même invisibles pour l'instant, mais ça promet de grandes découvertes et en tout cas de grandes interrogations sur la question de l'intelligence et des calculs qui nous y feront parvenir. Merci beaucoup.